Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, chers abonnés de cette chaîne. Je suis vivant, déjà. Ça fait longtemps que j'ai pas posté des trucs, donc je préfère le dire. Tout va bien. Enfin, tout va bien. T'entends ma voix quand même, je suis malade. Malade, pas non plus. Tu vois, je suis malade. Voilà, j'ai juste plus d'odorat, plus de goût. Non, en vrai, j'ai juste le nez pris. C'est tout moi, ça. Il y a une pandémie mondiale depuis un an qui ravage la planète et moi, j'ai un rhume. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo, même sur ce nouveau type de vidéo, parce que j'avoue que j'attendais impatiemment de pouvoir refaire des vidéos en public, mais non, en fait, non, va falloir être patient là. Il va falloir être très très patient. Non, maintenant, on a même un couvre-feu à 18h, donc là, ça y est, ça... Voilà, ouais, je comprends pas d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que moi, j'ai regardé la conférence de presse, Castex, il a dit, si ça servait à rien, on le proposerait pas. Bah ouais, mais c'est... Enfin, c'est mince comme argument quand même, hein. C'est vraiment le pourquoi on fait ça. Parce que... Oh. Non, en vrai, je suis une mauvaise foi parce qu'apparemment, dans les départements de l'Est qui ont eu le couvre-feu à partir de 18h, il y a eu une baisse des contaminations. Alors, sur les chiffres, d'accord, mais comment ça s'explique? Est-ce que quelqu'un a une idée, s'il vous plaît? Parce que moi, autant le couvre-feu à 20h, je comprends l'idée, c'est d'éviter que les gens y fassent la teuf, d'accord, mais à 18h, qu'est-ce que vous foutiez? Qu'est-ce que vous foutiez entre 18 et 20h? Qu'est-ce qu'il y a à faire entre 18 et 20h dans l'Est? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'Est, de manière générale? Parce que moi, je le sais, je viens de là. L'Est, c'est vraiment la région, c'est pas de bol. Voilà. Si tu devais résumer, tu dirais l'Est, ouais, c'est pas de bol. C'est pas de bol. Regarde, à chaque guerre mondiale, on a failli devenir allemand. Là, la première épidémie, le cluster numéro 1, il est parti d'où? De Mulhouse. C'est l'Est. Bertrand Camel. Je veux dire, pour une fois qu'il y a un gars à la télé qui nous représente, qui est sympa. Bertrand Camel, c'est le mec de Koh-Lanta qui est mort quelques mois après le tournage de l'émission. Et c'est horrible parce que tu le vois pendant l'émission, mais il est tellement sympa, le gars. T'as pas envie qu'il meure. Vraiment, je vais aller à la limite, ça aurait pas été un mec sympa. Tu vois, ça, une sale race, tu sais, qui fait ses coups en dos, c'est des machins, où toi t'es devant la tête, vas-y, fais. Hein, fais. Dis des merdes sur les... Trahis ton camp, trahis. Moi, je sais ce qui se passe après. Alors, cette vidéo qui est longue, hein, vous allez le voir, c'est pas une vidéo courte comme je fais d'habitude, c'est... d'habitude, est-ce qu'il y a encore des habitudes sur cette chaîne? C'est un entretien, en fait, avec Bounaïmin, mon pote humoriste, que j'ai décidé d'inviter à l'Inglorious Baltar. L'Inglorious Baltar, c'est la soirée du 20 janvier qui n'est pas annulée. Oh là là, mais dans quel monde on vit? On est à un stade où on est obligé de préciser quand les soirées ne sont pas annulées. Donc ça, c'est pas annulé, ça joue. Le 20 janvier à 21h en direct du pavillon Baltar, parce que c'est en streaming, c'est pour ça qu'on peut jouer. Voilà. Avec Pierre-Emmanuel Barré, Alex Vizorek, Tania Dutel, Haroun et Fabien Olicard. Et il devait y avoir Bounaïmin, c'est pour ça que je l'avais invité, en fait il vient pas. Donc c'est pour ça que vous avez un podcast avec Bounaïmin en ouverture. Ouf, ça n'a aucun sens ce que je raconte, aucun. Donc cette soirée se joue et tu pourras la regarder de chez toi, de ton canapé, en streaming, avec tous les artistes que je viens de citer. Et je mets le lien dans la description. Et pardon, je dois préciser un truc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une place par personne. Parce que, ouais, non mais il y a des gars qui m'envoient des mails en faisant « Ah, on est 6, c'est hyper cher !» Alors non, c'est pas parce que vous êtes 6 que c'est hyper cher, c'est parce que vous êtes con que c'est hyper cher. Parce que l'accès, il est pour un écran. Donc si tu te mets à 6 devant le même écran... Il n'y a personne qui va t'en vouloir. Après, si vous voulez acheter une place par personne, allez-y, personne ne vous en empêche. Mais disons que moi, je ne le ferai pas. Hein. Donc, nouvelle vidéo avec Bounaïmin, le chinois marrant. Alors, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait une vidéo, c'est un audio. Vous pouvez écouter en faisant, je sais pas, la vaisselle, du repassage, tous les trucs qu'il faut faire pour tenir une maison en ordre. Non, ça ne fait pas 9 mois que je suis coincé chez moi. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter cet entretien que nous avons eu de plaisir à l'enregistrer. En attendant, je vous donne rendez-vous le 20 janvier à Baltar et dans ton canapé. Et puis, d'ici là, bah, bonne écoute et bisous dans ton coude.
Et maintenant, c'est la gloire.
No, not you, not you.
I have a dream. Comment c'est votre nom déjà?
Allez, mettez ça sur le compte de l'émotion.
Elle est incroyable, Dorina. T'as vu, elle range très très bien et tout. Non.
Bah voilà, c'est la fin de ce podcast. Hein, je pense qu'on s'est dit ce qu'on devait se dire.
C'est quoi la réussite ? Ben voilà, on voit une femme de ménage.
Je ne sais pas exactement si ce sera un podcast sur la réussite ou sur de la discute. J'ai un peu de mal. Au début, je voulais l'appeler la gloire. Je trouvais ça très marrant. Mmh. Et Marion, ma femme, elle m'a dit bah, en fait, t'es teubé parce que si t'appelles ce podcast la gloire, il y a des gens qui vont croire que tu vas parler de gloire. Okay. Or, c'est pas ce que vous cherchez visiblement. En tout cas, moi, les gens que j'ai envie d'interviewer, c'est des gens qui se soucient moins de la réussite que de du processus pour arriver à faire ce qu'ils font.
Ouais. Après, je pense qu'on cherche tous hein, la gloire.
Ouais, mais ça dépend à quel degré elle se situe. T'as des gens qui situent la gloire à la réussite de leur projet, c'est-à-dire je sais pas, toi, ta gloire à toi, ce sera d'écrire un sketch et puis de faire en sorte qu'il fonctionne et de le rendre marrant. Peu importe le nombre de personnes qui l'écoutent et qui le trouvent marrant. Et puis après, il y a ceux qui situent la gloire à la réussite de notoriété, quoi.
Ou juste financière.
Ou juste financière aussi, ouais.
Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas connus, mais ils sont chéris de fou.
Qui Où sont-ils? Où se cachent-ils, ces gens? Je suis trop fier de faire ce premier épisode avec toi, donc je ne sais pas comment il va s'appeler.
Ok.
Visiblement, ce ne sera pas la gloire, parce que j'ai eu un no-go de ma femme. Mais
on l'appelait sa gloire.
La gloire à ma meuf. Voilà. Mais je suis content parce qu'on le disait tout à l'heure. T'es un des premiers gars que j'ai rencontré avec Donnel. Donnel, on s'est rencontré au cours Florent.
D'accord.
Donnel Jaxman.
On était fait des ensemble. Cours Florent, toi.
J'ai fait 6 mois de cours Florent. Et Donnel, on était dans la même classe. Donc lui, c'est officiellement le premier gars que j'ai rencontré parce qu'on faisait même pas de stand-up encore à l'époque. Et puis après, tu fais partie des tout premiers gars que j'ai rencontrés puisque j'ai fait ta première partie en 2006 au Moloco.
Lors de ma première date, et c'était un 12 février.
C'est vrai ?
Ouais, je m'en souviens, parce que c'était l'anniversaire de mon neveu.
Ah, excellent. Mmh. Excellent, c'était déjà super. Je me souviens de tes premières vannes. C'était ouf de voir... Bah, déjà, c'était blindé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé.
Je ne sais pas non plus. Ouais. C'est un truc que je ne me suis jamais rendu compte, en fait. C'est que j'ai toujours été complet.
Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. Tu as toujours été un gars qui a cartonné où on savait que tu étais quelque part et ça marchait, quoi.
Ouais.
Ouais.
Mais c'est pour ça, quand tu me parlais de réussite, tu vois, ouais. je me disais, ouais, il y a un vrai moment où, en fait, tu n'as pas à penser il y a combien de gens dans la salle, quoi.
Ouais.
Et
toi, tu l'as eu dès le début. Voilà. T'as démarré. Après, on parle de complet, on était quand même sur une jauge de 60 personnes. Hein.
60, on était gentils.
Ah ouais,
on était complet à 40, je pense.
Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'était ouf pour nous parce que vraiment, on était zéro. Je me mets dedans.
40 gratuits.
40 gratuits, c'était 40 ça gratuits. En plus. C'était ça en plus, c'était au chapeau à la fin et quand on partait avec 80 balles, c'était la teuf.
Oui, mais à l'époque, 80 euros, tu te souviens?
On pouvait acheter tellement de choses avec ça, t'étais propriétaire.
J'ai acheté mon premier studio avec.
Ah, ouais. Ouais. Bon, déjà, où est-ce que tu en es en ce moment, en cette crise? Ça m'intéresse parce qu'on a tous, notre manière de gérer la crise du Covid. Je ne parle pas de la manière quotidienne financière, je parle même de la manière psychologique.
Ben, moi, je pense que je suis quasiment au même endroit que toi. On en parlait tout à l'heure.
Ouais.
C'est que je me disais, mais en fait, ça ne me change pas du tout la vie, en fait. C'est, moi, je suis chez moi, je suis casanier, je joue à la console, je peux vivre... Je me disais, je pouvais vivre des années comme ça,
ouais.
En fait. C'est vraiment ça, la retraite. Et en fait, la scène me manque et l'oxygène me manque.
Ouais, donc, c'est vrai qu'il faut aérer un peu. Hein.
j'avoue qu'on fume beaucoup.
Ouais, la scène te manque. Moi aussi, c'est ça que je commence à ressentir. C'est marrant, j'ai pas eu au début du confinement ce truc de sauver la culture, aidez-nous à rester en vie. Parce que j'avais l'impression d'être déjà un privilégié au sein de la culture. Parce que c'est vrai que sauver la culture, quand tu dis il y a quand même de la culture, il y a des auteurs, il y a des gens qui écrivent des bouquins, il y a des films disponibles, il y a des séries. La culture, elle se porte pas mal sans nous. Et puis, par contre, le spectacle vivant, ouais, comment ça me manquait, moi?
Ben ouais, mais après, je me dis que putain, qu'est-ce que c'est égoïste de se dire que nous, notre seul manque, en fait, c'est de pouvoir jouer, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est quand tu vois les situations dans lesquelles peuvent se trouver des gens.
Ben ouais.
Ouais, t'es obligé d'être empathique par rapport à ton petit désir à toi, égoïste. Et à la fois, t'as le droit quand même de souffrir aussi de ce manque-là. Souffrir, c'est un grand mot, évidemment.
Mais c'est ça. En fait, on a le droit de souffrir, mais on n'a pas le droit de s'en plaindre, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ton petit bobo. T'as le droit, tu t'es coincé le doigt, ça fait mal. T'as le droit d'avoir mal, mais il y a quand même un mec qui a le bras pété à côté, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand tu vois les restaurateurs, tu sais pas comment
ils... Oh la vache, ouais.
Putain.
Alors eux, vraiment, la misère absolue. Et les restaurateurs qui ont monté leur resto. Je peux pas empêcher de trouver ça marrant. Parce que horrible. C'est-à-dire que c'est le mec qui entreprend, qui met toute sa vie dans le truc, pile au moment où, quand je dis marrant, évidemment, il faut
mettre du second
degré. Parce que, mais c'est juste l'ironie qu'il y a toujours dans ces situations où le moment où tu démarres ta vie, quoi.
Mmh.
Où tu te dis, je fais un pari, et en fait, tu te rends pas compte que le casino, il est fermé, quoi.
Ouais.
T'as passé ton confinement le premier, alors si je me trompe pas, t'étais à l'île Maurice.
Ouais, mais je devais aller à La Réunion.
Ouais.
Et j'ai été bloqué à la frontière.
Trompé.
Non, c'est pas qu'on s'est trompé.
Merde.
C'est qu'en fait, tu sais, il faut prendre deux vols, quoi. Fallait faire Réunion et après Maurice et après Réunion.
Ouais.
Mais entre le premier avion a eu du retard et la France a fermé ses frontières à minuit.
Ouais.
Donc la Réunion, ça fait partie de la France. Et donc, on ne pouvait plus y aller, quoi.
C'est tellement drôle, quoi. Je pense que tu as été envié par une grande partie du monde. Et après, quand il réfléchit... Enfin, moi, sur le moment, je me suis dit, ah, le salopard, quoi. Il est à l'île Maurice pour passer son confinement. Et après, je me suis dit, mais non, c'est encore pire, parce que tu es enfermé. Tu es confiné à l'île Maurice. C'est-à-dire que tu es à l'île Maurice matériellement, mais tu serais à Barbès, ce serait la même chose. Tu es dans un appart coincé, quoi.
Alors, j'étais pas dans un appart.
Ouais.
Mais ouais. Mais c'est vrai que tu es coincé, mais voilà, t'as une piscine, t'as des t'as une piscine, t'as une plage privée, t'as oui, t'as des oiseaux, ça va.
C'est chambé. C'est marrant parce que du coup, effectivement, tu te retrouves là. Je me rappelle que t'étais à Rouen
oui.
au moment de Lubrizol.
Ouais.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de te tuer toi.
Ben, j'ai l'impression. Ouais. J'ai l'impression parce que j'ai joué au Bataclan. Deux jours avant les attentats.
Le mec qui tape dans le mille, quoi. Vraiment, faut suivre Bounaïmin.
Oui.
Enfin, non,
faut pas suivre. Il faut y aller avant.
Ouais. Ou alors, t'es le mec qui a le plus de bol du monde.
Mais c'est fou, parce qu'après, tu sais, j'étais aussi là à Bruxelles.
Ouais, mais oui, c'est vrai.
Ouais. Et j'ai été coincé en Belgique parce qu'ils avaient fermé, les queutrues.
Ouais.
En sachant que mon train était prévu à l'heure de l'attentat. Quoi.
Oh la vache.
Et que vu que je ne me suis pas réveillé, je ne l'ai pas pris.
Putain, c'est fou, quoi. C'est fou. Mais tu aurais été dans le train dans lequel il y a eu l'agression.
Ouais.
L'attentat, quoi.
Ouais.
Oh merde. Putain, t'aurais tellement évité le truc.
Non, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est chelou. C'est chelou et en même temps, je me dis, on est plein. En fait, on était.
Oui, vous êtes plein à avoir. Enfin, à mon avis, t'es le seul à ne pas te réveiller systématiquement.
Oui, non, mais tiens, après, on était plein, tu vois, tu sais, au Bataclan, il y avait,
oui, bien sûr, ouais.
Il y avait 2000 personnes aussi qui étaient là.
Ouais. Jour J.
Ouais. Donc, oui.
Est-ce que c'est maladroit de dire le jour J ou est-ce que c'est.
Non, parce que c'est notre idée à nous. Hein. c'est notre 11 septembre. Comme quoi, on a toujours 2 mois de retard avec les États-Unis.
Et là, un peu plus. Hein.
Ouais.
4 ans de retard. C'est fou, moi, comme ça m'avait choqué. J'hallucine là, de la manière avec laquelle on s'habitue à des choses. C'est pas tant sur les attentats que je veux dire ça, mais c'est plus sur le... Moi, c'est le port du masque qui me choque. C'est le moment où, en janvier... si je me trompe pas, tu avais fait un sketch là-dessus sur Click où justement tu disais mais regarde le nombre de morts qu'on a. J'avais traité le truc en disant mais les mecs, enfin ils nous impressionnent pas ce virus. Et évidemment on le fait toujours avec beaucoup d'ironie et on sait comment ça peut évoluer derrière et on espère que ça évolue pas mal. Mais moi ce qui me choque surtout c'est le moment. Je me souviens du moment où je regarde moi les images des Chinois avec des masques et que j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction quoi où je me dis mais c'est pas possible l'humanité masquée en permanence. J'avais l'impression que ça n'arriverait jamais. Là, maintenant, quand tu sors sans ton masque, t'as l'air d'un teubé, quoi.
Mais là, il y a deux trucs. La première, c'est que l'humain, si on est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est qu'on on a toujours réussi à s'habituer, quoi.
Ouais.
Si on a survécu aux dinosaures ou les trucs.
On n'était pas en même temps que les dinosaures. Voilà. Mais effectivement, on a...
Vous croyez
qu'ils ont vécu beaucoup plus longtemps que nous, hein.
Oui.
Ouais.
Parce qu'ils portaient des masques. Non. Mais oui, non, on a toujours réussi à s'habituer. Quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une forte notion de résilience. Je ne sais plus d'où sort ce mot-là, résilience. Mais pareil, au camp, moi, j'étais sidéré de voir qu'au moment des camps nazis, J'avais entendu des témoignages de juifs qui étaient rescapés des camps qui expliquaient qu'en fait, on voit que des images en noir et blanc très dramatiques. Ils disaient, les gars, mais on riait en fait. Parce que notre quotidien était devenu autre chose et qu'on pouvait... Alors, ils ne riaient pas des atrocités qui se passaient, évidemment, mais ils avaient dans leur vie... ils vivaient avec leur humanité, quoi.
Ben, c'est ça, en fait. C'est que l'humain, il arrive à s'adapter, en fait. Et je pense que oui, c'est la puissance du pouce.
C'est la puissance du quoi ?
Du pouce. C'est parce qu'on a eu un pouce qui a pu... On a pu attraper des choses.
J'ai cru que tu étais sur Facebook. Depuis que les gens, ils appuient sur... Ouais, c'est l'appréhension, c'est ça que tu veux dire.
C'est
ça.
C'est qu'on arrive à prendre les choses, quoi, comme elles sont, et adapter la forme de notre main, et donc de notre corps, de notre esprit, à ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on est là, quoi.
Et je trouve que ça résonne vachement avec notre métier, parce que pour le coup, je sais pas comment tu sens ça, mais pour moi, le stand-up, c'est un truc où t'es vraiment en prise avec le réel, avec l'immédiateté, avec ce qui se passe maintenant. T'es un reflet de la société, quoi. Et donc, j'ai l'impression que le stand-up est justement très humain en ça. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a et on se démerde avec.
C'est une forme de stand-up, je pense.
Parce que pour toi, il y en a plusieurs.
Bah oui, je pense qu'il y a des, je pense qu'il y a des stand-upers qui pas qui prennent, mais qui utilisent.
Ouais.
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas à eux en fait. Tu vois, tiens, on parlait tout à l'heure de plein de co-auteurs, etc. Et que oui, ça c'est pas, ça peut être considéré comme du stand-up parce que c'est une voix, une idée. Mais
Ah oui, toi tu mettrais presque en parallèle le stand-up au sens les vrais, quoi, ceux qui prennent un crayon, un papier, qui couchent leur honte, leur tristesse, leur vision du monde, et puis ceux qui font du spectacle presque.
Voilà, exactement. Ouais. Parce que pour moi, le stand-up, en vrai, c'est pas. Ouais, c'est... Tu sais, très souvent, en fait, je me rends compte que tout ce que j'ai, c'est des blagues, en fait. Autant matériellement que, que dans mon âme, quoi. Et tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté avec des blagues, en fait. Tout ça, c'est que du rire, en fait.
Ouais.
Et donc, du coup, je me rends compte de l'absurdité de ce métier. De se dire, viens, on va réunir des gens pour qu'ils t'écoutent.
Ouais, mais alors moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant le confinement, parce que j'avais le temps. Je réalise que moi, c'est pas autant l'absurdité du métier qui me choque, mais presque l'absurdité du monde. En réalité, je me demande si réunir des gens et faire des blagues pour que les gens rigolent, je me demande si ça devrait pas être ça, uniquement l'humanité. Enfin, et je parle de toutes les autres formes d'art, évidemment, mais quand je vois ce dans quoi on se jette, l'espèce de fonctionnement, enfin l'espèce, non, le fonctionnement capitaliste, la consommation, la création à outrance, le fait de sans arrêt créer des trucs et d'y trouver une utilité après, puis de les vendre, et puis encore une fois, j'ai l'impression d'une espèce de course vers la possession. Et à mon sens, l'humour et l'art en général, justement, c'est l'anti-course à la possession. C'est le je te donne quelque chose qui se donne pas, quoi. Enfin, je te donne quelque chose qui n'est pas matériel. Tu repars avec quelque chose d'humain, justement. Se réunir, c'est.
Oui, mais alors là, si on part de là, par exemple, tu vois, avec tout le respect que je dois à Jules, tu vois, qui produit et qui donne, qui fait de l'art, etc. et tout. Donc, il est dans cette consommation-là. Quand t'as des mecs...
Laquelle consommation, justement ?
Dans la production. C'est-à-dire que tu produis des trucs, tu produis pour qu'ils soient consommés, et dans cette surproduction, et pareil, tu sais, sur...
Ouais, mais je parle plus de la surproduction matérielle, moi. Je mettrais plus ce que
oui,
tu
non,
t'achètes,
je comprends,
un petit produit à deux balles que t'en as pas besoin. Mais
oui, mais c'est pour ça.
Ouais.
Là, en fait, on est en train de produire des trucs dont les gens, en fait, ils n'ont pas besoin.
Non. Mais peut-être que l'art, ils en ont besoin, pas besoin, mais que justement, on allège ça. Que c'est un produit qui n'est pas un produit matériel, c'est un produit qui est un produit pour l'esprit, tu vois. Et même Jules est un produit pour l'esprit. Alors, certains aiment d'autres noms, mais moi, je pense que ce n'est pas absurde, en vérité. Je me demande si ce n'est pas tout le reste qui est absurde. Justement, tout le reste du monde qui nous entoure, là où pour moi, l'art est dans le vrai, quoi. Et l'absurdité, justement, je trouve que c'est en ce moment d'enlever cette création-là qui est humaine et puis de garder les métiers dits indispensables, justement, ceux qui créent de la richesse au détriment de...
Oui, mais foncièrement, tu crées de la richesse. Quand toi, ouais, tu crées des blagues, t'as ta société, t'achètes des apparts, des consoles, tu, ouais, crées de la richesse en vrai. Donc...
mais tu crées de la richesse à partir de d'esprit, tu vois, à partir de vide, quoi. J'ai tellement, ouais, envie de laisser ce vide long.
Oui, mais ouais, ouais. Non, mais c'est vrai.
C'est beau, c'est ça.
C'est vrai. Mais oui, mais tu crées de la richesse à partir de vide. En vrai, Facebook, il crée de la richesse à partir de vide. Instagram, ça crée de la richesse à partir de vide aussi.
C'est ça. Ouais, mais ça, est-ce que ça répond pas justement au désir des gens de s'exprimer comme nous, on a la chance de pouvoir le faire. Nous, on a dû passer des étapes pour avoir le droit de prendre la parole. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un rituel, je veux dire, mais non, mais toute une phase d'apprentissage, accepter de prendre un micro en main, accepter de se montrer, accepter comment les gens nous voient, comment ils nous jugent. Alors que Facebook a rendu ça tellement simple. C'est-à-dire que tu peux donner ton avis, tu peux donner ta voix sans avoir peur du jugement d'autrui, quoi.
Bah, t'as peur quand même.
Ouais, je sais pas si justement t'es pas un peu plus protégé derrière ton clavier que à poil sur scène.
Alors, évidemment, t'es beaucoup plus protégé. T'es jamais aussi à poil que devant un micro et devant des gens. Mais il y a plein de gens qui ont dû fermer leur compte Facebook, qui ont fermé leur compte Twitter parce qu'ils ont dit des choses qu'ils, ouais, auraient, entre guillemets.
Oui, qui n'était pas accepté par le, ouais, par le troupeau, hein, ouais, de manière générale. C'est vrai que l'être humain, c'est un animal qui a envie d'être. De trouver sa place dans la société, quoi. Mais tout ça pour dire que moi je trouve pas ça futile ce qu'on fait, et pourtant je suis le premier à le dire. Ça, pour moi, je dirais qu'on sert à rien, mais qu'en même temps on est indispensable. Mais dans le chemin d'une vie, je me pose la question de savoir si ce qui reste, c'est pas justement les moments de convivialité. Si on se contente d'imaginer qu'on réunit des gens pour nous écouter, oui, effectivement, c'est complètement, ça a pas de sens. Mais si, et moi, c'est ce que je vois dans ton travail. Pour moi, tu réunis pas des gens pour qu'ils t'écoutent. Tu réunis des gens pour qu'ils partagent.
Mais en fait, moi, je me suis donné comme Nindo, quoi, comme voie de vie, quoi. Ouais. C'est créateur de souvenirs. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, quoi, les gens vivent des moments de vie avec moi. Et j'essaie d'être immortel comme ça, en fait, plutôt que de faire un enfant. De me dire que des gens ont créé ou ont vécu des choses
via avec ton moi. Ouais, c'est ça, avec toi, ouais. C'est pas grâce à toi,
ouais, ouais,
mais c'est avec toi, moi. C'est exactement, ouais, ça. Mais ce que tu disais dans une interview, que tu comparais le spectacle à une nuit d'amour.
Ah oui?
Ouais. Et c'était vachement intéressant d'ailleurs comme manière de voir les choses, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très sexuel dans tout ce qu'on fait de manière générale. Et d'ailleurs, quand il réfléchit, l'absurdité de faire l'amour avec quelqu'un, enfin, si on a, en dehors du fait de se reproduire, ouais, et aujourd'hui on fait l'amour vachement sans se reproduire, il y a
mais la faute à qui?
Au pape, justement, non. Pas lui. Mais je trouve que c'est très lié, l'art. C'est une rencontre, quoi, un moment intime avec quelqu'un. Je crois, alors attends, je vais essayer de retrouver où est-ce que tu disais ça. Le spectacle, c'est comme une nuit d'amour. C'est-à-dire tu donnes à la personne et tu l'écoutes en même temps. Et je trouve que c'est vachement beau. C'est-à-dire que tu t'es obligé de rester à l'écoute. Tu n'es pas juste dans une... Effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, je vais te rejoindre là-dessus, c'est que c'est absurde de se mettre sur scène et de parler à des gens et qu'eux t'écoutent. Mais en vrai, c'est pas ça que tu fais. Ce que tu fais, c'est que tu leur donnes quelque chose et que tu les écoutes. En vérité, j'ai l'impression qu'on écoute les gens autant qu'ils nous écoutent, paradoxalement.
Ah, mais oui, moi, j'apprends beaucoup plus sur scène que dans la vie, en fait. C'est pour ça que tous mes spectacles, je les ai écrits sur scène.
Ouais.
Je sais pas si tu te souviens, mais lorsque on avait fait la première partie, que tu révisais le texte, moi je te disais, j'en ai pas, en fait.
Putain, je vais faire la première partie d'un gars. Moi, mes 5 minutes, elles sont au cordeau. Parce que moi, j'ai aussi une éducation très... fallait travailler, faire son truc. Donc je sentais le devoir sur Paris de faire quelque chose de très propre. Et effectivement, j'avais un 5 minutes qui était absolument prêt. Et je te voyais, toi, libre et à la fois... tu avais une certaine forme de détente. Et en même temps, une certaine forme de saut dans le vide de... Bah
c'est la première fois.
C'est chaud, gars. Ouais. C'est
bah, chaud. Oui. Bah, parce que je suis dans la construction perpétuelle, en fait. Mm. Je me dis que chaque jour, chaque moment, j'essaie d'être un humain un peu meilleur.
Ouais.
Et pareil pour les vannes, le spectacle, etc. Et c'est vrai que quand on dit que, tu sais... Les paroles volent, les écrits restent. J'ai pas envie que les choses restent, en fait. Mm. Parce que c'est mon côté bouddhiste de se dire que tout est éphémère. Et alors, une vanne, elle peut être parfaite sur le papier, mais en vrai, c'est quand elle est dite et la façon dont elle est dite qu'elle commence à...
Et la façon dont elle est reçue, quoi. C'est le moment où ça punch. Moi, je t'ai vu beaucoup, hein, on a énormément joué ensemble. Et il y a notamment ce moment, putain, moi ça reste un de mes souvenirs, c'est un de mes souvenirs les plus puissants dans l'histoire du stand-up que j'ai vécu. C'est le moment où t'es devenu un super guerrier, quoi. C'est-à-dire que tu parles des vannes effectivement sur le papier, etc. Et je crois que c'est en 2013.
Je sais que c'était au théâtre du gymnase, c'est ça.
Mais mon Dieu, quoi. Mon Dieu, c'est-à-dire que Boone, il allait s'enfermer dans la salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball, quoi. Tu reviens, enfin, vraiment, ouais, j'aimerais qu'on en parle de ce moment-là, parce qu'il y a eu, pour moi, vraiment un avant, un après. C'est-à-dire que, et pourtant, le texte était le même, l'envie de faire ce métier était la même, mais d'un coup, t'es passé au step de... Pour moi, t'étais en adéquation. T'avais trouvé Boone Haïmin. C'est ce moment où on se dit, il faut trouver son clown. Je ne sais pas comment tu as ressenti cette période, mais moi, alors je vais éclaircir un petit peu le truc, ouais. Parce que pour l'instant, je parle que de mes souvenirs, je n'ai pas encore expliqué ce que c'était. Je me retrouve à jouer au théâtre du gymnase pour une soirée, je ne sais plus ce que c'était.
C'était la soirée Human.
La soirée Human,
c'était Valentine Mabi.
C'était Valentine Mabi qui produisait cette soirée-là, c'était chouette. Il y avait beaucoup de stand-uppers de notre génération, ouais. Yacine, si je ne me trompe pas, Kéron,
Baptiste Le Caplin.
Ouais. Ouais. Il y avait vraiment toute notre génération de gens qui étaient vraiment forts et qu'on se respectait tous beaucoup, y compris toi d'ailleurs. Et je passe, je crois, en deux ou trois, et tu devais pas... C'est peut-être été en ouverture, ou alors... En tout cas, je passe après toi, c'est sûr et certain.
Oui, je me souviens que tu passes après.
Et j'entends les rires dans la salle, et moi, je connais le niveau dans lequel on est tous, on connaît à peu près nos niveaux de rire, on sait qu'on est fort, je parle vraiment en termes juste pratiques, c'est-à-dire tant de rire pour Boone égale tant de rire pour Verino. Je sais qu'en passant après toi, j'entends la salle exploser, je me dis « cool, le public est vraiment très chaud ». Et je monte sur scène plein de confiance, malgré le fait que c'était les premières fois que je jouais, c'était mon nouveau spectacle, je maîtrisais pas encore tout à fait mes rythmes, mais je me suis pris un four, je me suis pris un tunnel, c'est-à-dire que je suis monté sur scène et là les gens, ils m'ont vu, c'était même pas moi, c'était la déception que Boone se soit fini. Tu les avais emmenés dans un truc, mon Dieu, mais je t'ai vu... Ouais, pour moi, c'est un des souvenirs les plus marquants que j'ai, c'est la naissance d'un truc, quoi. La naissance du chinois marrant, quoi. Et pour moi, ça a été vraiment ça. Comment t'as ressenti ça? À quel moment ça s'est passé? Est-ce que t'as déclenché quelque chose? Est-ce que c'est toi qui as agi pour arriver vers ça? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est une angoisse que tu t'es retirée? Est-ce que... raconte-moi tout ça, s'il te plaît. Apprends-moi. Je veux faire pareil.
Non. Ben, ça a été la dépression, en fait. Ça a été le...
Ah bah, je veux pas, là. Voilà. Ça m'intéresse pas.
Ça a été, tu sais, pendant des années, je savais que j'étais fort, mais je vivais avec cette frustration de me dire, je ne suis pas au niveau où je dois être.
Ouais.
C'est-à-dire en termes de reconnaissance du public, en termes de célébrité, en termes de fond dans les vannes et de quoi, tu sais, quand tu commences, même quand tu fais un projet, tu as une vision du truc.
Ouais.
Et pendant des années, j'étais pas là.
Ta vision, elle collait pas, elle collait à pas ce du que tout tu ça. Réussissais à faire. Quoi.
Voilà. Arrive une rupture.
Une rupture amoureuse.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est.
je sais. Mais arrive un moment où, en fait, t'es tellement mal que tu te retrouves seul. Mm. Seul, vraiment. Les seules personnes à qui je parlais, c'était Wad et Farid Chamek, tu vois. Et que je croisais de temps en temps. Et je pars, je me dis, la France, c'est pas pour moi. Ils ont pas compris qui j'étais. Vas-y, je pars en Asie, quoi. Et donc, je fais un road trip pendant 6 mois avec un sac à dos. Je laisse mon appart comme ça. Voilà. Je pense que le proprio était mi-content, mi-pas content.
Parce qu'il a récupéré l'appart, voilà. Donc du coup, il a fait qu'il trouve quelqu'un d'autre.
Et qu'il y avait plein de... Il y avait plein de fringues, il y avait une télé.
Ah oui, d'accord, tu laisses ton appart.
Ah ouais, je laisse.
C'est ciao, quoi.
Je laisse tout.
Oh la vache.
Et donc, je pars juste avec un sac. Et là, pendant ce voyage, ben, je me découvre, en fait. Je me rends compte qu'il y a une partie de moi qui a toujours pensé que l'univers allait l'aider, ou quelqu'un allait l'aider, et que je ne pouvais pas me débrouiller tout seul. Et en fait, j'ai réussi à me débrouiller tout seul. Et de là, en fait, est né Bunai Min, parce que je suis allé au Cambodge, et tout le monde m'a vu pendant 30 piges comme étant chinois.
Mais c'est ta maman qui est cambodgienne ?
Mon papa est cambodgien, voilà. Okay. Et j'ai oublié que j'avais une partie de moi qui était cambodgienne, quoi.
Et t'avais déjà vécu au Cambodge ou...
Non,
c'est la première fois que tu mettais les pieds.
C'est la première fois de ma vie que je pars tout seul. C'est la première fois de ma vie que je vais en Asie. C'est la première fois de ma vie que je fais un vol de plus de une heure.
Ouais.
Ouais. Donc
tu rencontres en gros tes origines, quoi. Enfin, tu rencontres...
Je me rencontre moi, en fait. Je me rencontre pendant ce voyage, en fait, que... Bah, a posteriori, tu vois, même après le gymnase. Que c'est pas la France qui était pas prête pour moi, c'était moi qui n'étais pas prête pour moi.
Ouais.
Et donc je suis rentré en étant moi. Et le destin, comme il est fou en fait, parce que là, je sors de l'aéroport.
Tu viens de roter, je le dis parce que j'ai entendu dans le micro.
La première personne que j'appelle, c'est Papy.
Ouais.
Qui me parle de Fanny au théâtre de 10h, qui fait des scènes. Et donc, moi, je suis encore avec mon gros sac, et j'arrive au théâtre de 10h, et je peux aller sur un plateau. Et donc, je joue sur ce plateau-là, alors que j'ai plus rien. J'ai plus d'argent, j'ai qu'un sac, j'ai même pas de frein. Et à la fin du plateau, on va boire un verre, et il se trouve qu'il y a une fille qui était dans la salle, qui me dit qu'elle a kiffé, etc. et tout, et qu'elle me demande où c'est qu'elle peut me voir. Moi, je je sais pas.
Pour l'instant, j'habite dans un avion. Ouais, voilà, c'est là que je suis resté le plus longtemps.
Et donc, je squatte chez elle pendant 6 mois, quoi. Donc,
où est-ce qu'on peut te voir ? Bah là, chez toi.
Bah là, voilà.
Maintenant, là, tout de suite, quoi.
Si t'as un canapé, tu peux me voir. Et donc,
tu te retrouves chez elle pendant 6 mois à habiter donc...
dans le 18e, comme là. C'est là que j'écris le sketch pour du Jamel Comedy Club.
Non,
le Jamel Comedy Club, le Barbès, quoi.
Ouais. Oui, la Goutte d'Or.
La Goutte d'Or, voilà. Mais j'habite rue de la Goutte d'Or, et c'est là que j'écris ce sketch-là. Mais oui, oui. Donc, je me dis en fait qu'à un moment, je me dis, mais non, mais en fait, je ne suis pas légitime parce que c'est tout le temps l'univers qui me met des gens pour m'aider.
Ouais.
Et quand je reviens en me disant c'est bon, j'ai pas besoin de gens pour m'aider,
mais foutez-moi la paix.
et donc il y a une part de moi qui me dit en fait que t'es pas un aussi escroc que ça, non. En fait, que en vrai t'es peut-être fait pour ce destin.
Mais c'est intéressant l'idée de l'escroc, parce que je pense que ça résonne au-delà même de notre métier à nous, etc. C'est dans la vie. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose dont on parle énormément. Les gens qui ne savent pas exactement si ce qu'ils font, c'est très utile, qui ne savent pas si dans leur taf...
Ils servent à quelque chose.
Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est une question profondément humaine à laquelle nous, on est réellement confrontés, parce que si on ne sert à rien, pourquoi on monte sur scène pour montrer à quel point on ne sert à rien ? Il y a une espèce de philosophie qui se met en route derrière, à laquelle je pense que nous, on a l'obligation de répondre, et donc il y a un certain confort par rapport à ça, parce qu'on est obligé de s'y confronter à cette question-là, mais j'ai l'impression que c'est l'humain, de manière générale.
L'humain a toujours se dire, elle est où ma place, en vrai ?
Ouais.
Elle est où ma place ? Ben, parce que, en vrai...
Une fois que tu es à ta place, pardon, je te coupe, mais une fois que tu es à ta place, tu te demandes si tu la mérites. C'est ça qui est improbable.
Mais oui.
C'est-à-dire que elle est où ma place ? Là, d'accord. Est-ce que je la mérite vraiment ? Putain, ta gueule.
C'est ça.
Sois à ta place et fais les choses. Fabrique à partir de là. Accepte ce que tu as obtenu. Parfois, tu as de la chance. Parfois, tu n'en as pas.
Mais c'est pour ça que j'ai accepté, en fait, le fait d'être à ma place au moment T.
Ouais.
Parce qu'en vrai, on est à notre place à chaque moment.
Oui, c'est ça.
Le moment où il y aura une autre place...
L'instant présent, quoi.
Exactement. Parce que oui... Alors, quand tu parles du syndrome de l'imposteur, quand je fais cette dépression, je tourne en même temps un film où je gagne en une journée ce que mon père gagne en 2 mois en tant qu'ouvrier. Donc,
après, il est nul, hein, ton père.
Ouais, j'avoue. Il construit des voitures très nulles. Mais ouais.
Oui, oui, c'est bluffant de voir l'ironie du monde. C'est-à-dire qu'en fait, en cherchant ta liberté, tu tombes sur un truc où tu participes presque aux inégalités qui sont choquantes, quoi. Tu te retrouves du bon côté, mais en fait, enfin, je ne sais pas si c'est ça que tu as ressenti, hein, j'extrapole, mais limite, en fait, de monter les échelons et d'arriver du bon côté,
ouais,
te fait te demander ce que tu fous là. Et,
L'effort que ça me demande. Comparé à l'effort que mon père faisait, il est incomparable.
Et à la fois pas tant. Enfin oui.
Oui, après.
Évidemment, mais quand on regarde la carrière ta carrière, prenons-la. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'absurdité de toucher ça, mais parce que tu le prends au moment M, justement. Tu te dis, bah tiens, là maintenant tout de suite, je gagne, je sais pas combien dans la journée. C'est complètement injuste, mais t'as sauté dans le vide avant, t'as affronté cette vie pleine d'incertitudes, enfin notre métier. Jamais personne démarre cette carrière en se disant je vais réussir. Enfin,
si, si.
Ouais, ouais,
on commence tous en se disant je vais réussir.
Ouais, on a de l'espoir, ouais, disons. Mais on sait que ça peut être semé d'embûches, on sait que ça peut être difficile, on sait qu'on va devoir se relever, s'écrouler. Mmh. On ne se doute même pas à quel point.
Oui, par contre, oui, on ne se doute pas à quel point tu t'écroules.
Et quand il y est, par contre, quand t'as passé toutes ces étapes-là, tu te dis, mais comment ça se fait que c'est moi qui mérite? Et en fait, tu as presque oublié aussi tous les moments qui ont pu être les moments de remise en question. Ta dépression, elle.
Oui,
enfin,
mais.
Je sais pas que les gens sont pas déprimés, mais.
Non, mais moi, je te parle de mon père, qui. Ouais. Tu sais, mes parents, ils ont fui le génocide cambodgien.
Ouais.
Ils avaient un métier, ils étaient pêcheurs, ils vivaient bien au Cambodge. Il arrivait en France sans connaître la langue, sans papier et sans truc. Donc, oui, les épreuves, entre guillemets, par lesquelles je suis passé, c'est rien.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Donc,
oui, mais
ça.
Lui, par rapport à sa vie d'avant, tu vois, il fuit un génocide et il se retrouve, encore une fois, c'est presque la même ligne, c'est-à-dire qu'il part d'un endroit où c'est plus possible, où c'est atroce, et puis il va se hisser quelque part. Et une fois qu'il est-ce que ton père s'est déjà dit qu'est-ce que je fous là, je suis du bon côté?
Oui, je pense.
Ouais,
je pense.
C'est fou.
Oui. Bah oui, tu sais, quand tu vois tes frères et sœurs qui meurent, quand tu vois la galère dans laquelle ils survivent, oui, évidemment, au moment tu dis est-ce que je suis du bon côté? Parce que, tu sais, des fois, ça se fait que tu rates un avion, en fait.
Ouais.
Tu vois, il y a...
C'était un TGV que tu avais raté tout à l'heure.
Non, mais par exemple, tu sais, t'as une des sœurs de ma mère... au moment de l'exil, qui se trompe de couloir dans l'aéroport, et au lieu d'arriver en France, elle arrive aux États-Unis.
Ouais.
Donc c'est un moment d'intention qui change
ta destinée
et celle de tes prochains. Ouais.
Et elle est bien aux États-Unis?
Un peu moins bien que nous.
D'accord.
Mais un peu moins bien que nous parce que aujourd'hui je suis Bounaïmin, en fait, tu vois.
Ouais.
Parce que c'est ça, c'est des fois je me dis, en fait, tu sais, je suis une espèce de Bitcoin.
Ouais.
C'est que vraiment personne croit en moi. Il y a mes parents qui ont parié sur moi. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est cool, tu vois. Mais,
C'est-à-dire, j'aime pas le mot arnaque, mais j'ai souvent la sensation d'être une arnaque. J'ai souvent la sensation de me dire, en fait, mais c'est pas du tout négatif dans ma bouche. C'est, je me dis juste, bah ouais. Effectivement, je fais un truc qui me plaît, je le fais du mieux possible. En soi, je suis pas indispensable. Malgré tout, j'apporte des choses aux gens et ça fait monter une certaine cote quelque part. Ça donne envie aux gens de venir. C'est presque l'offre et la demande en fait qui justifie
notre le prix
niveau.
Du Bitcoin. Ouais. Ouais, j'avoue. Moi, c'est surtout le côté de me dire tiens, il y a le dollar, il y a l'euro. Moi, je suis alternatif. Ouais, c'est ça, en fait. Je suis un truc alternatif, en fait. Autant dans le... Moi, je pense qu'on est pareil avec des parents qui ont fait des études, fait un métier, etc. Tout. Et moi, les miens, ils ont vraiment cru en moi, en mode, si tu veux faire ton truc alternatif, fais-le. Nous, ce qui compte, c'est que tu sois heureux.
Ça, voilà.
Après, ils ne m'ont jamais aidé. Quoi, ils m'ont aidé, si. Ils m'ont aidé en étant là, tu vois.
En amour et ouais. T'avais des parents aimants ?
Ouais.
Enfin, t'as toujours des
parents. J'ai toujours des parents aimants. Et c'est vraiment la chance que j'ai, quoi. C'est que j'ai été bercé dans l'amour, quoi.
Et est-ce que c'est ça, justement ? Parce que j'identifie vachement ce que tu fais sur scène à de l'amour. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il y a des artistes où tu peux te dire, tiens, ça, c'est une... Tu peux lier leur forme de travail à un acte politique, un acte, je vais pas dire religieux, mais un acte vindicatif, quelque chose. Là où j'ai l'impression que systématiquement, ce que tu proposes, c'est quelque chose, ce que tu veux proposer, mais je me trompe peut-être, pour moi, c'est quelque chose le plus simple possible, la ligne la plus droite possible entre deux humains. Il y a souvent une phrase que je t'ai entendu dire, c'est « on s'en bat les yocs ». Je sais pas si t'es toujours dans cette mouvance de on s'en bat les yocs,
ouais.
Mais tu vois, c'est quelque chose que on pourrait prendre un peu comme une phrase un peu je m'en foutiste, c'est-à-dire quelque chose de très bon, on s'en bat les yocs, presque en dilettante. Alors que moi, j'y vois pas ça du tout. Moi, j'y vois une philosophie, un rien n'a d'importance.
Exactement. C'est ouais. C'est viens on s'aime. C'est viens on s'en bat les yocs en vrai. En vrai. Tous les défauts que tu penses qu'ils sont des défauts, on s'en fout en fait.
Ouais.
C'est t'es comme as. Et quand tu parles d'amour, je pense que c'est vraiment ça l'amour en fait. C'est accepter la personne telle qu'elle est et faire en sorte que cette personne soit aussi bien que toi et que son bien-être t'importe autant que le tien.
Je t'aime, Bono. Je suis en train de tomber amoureux.
Ouais, ouais.
Non mais je trouve ça génial parce que c'est une philosophie qui est éloigné en fait de beaucoup de ce que nous offre le monde. J'en parlais tout à l'heure, ce monde consumériste et tout ça. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est un monde qui crée de la frustration, qui crée de la jalousie, qui crée de l'envie de réussir, du besoin de représenter quelque chose. Là où, à mon sens, ce que tu fais, c'est pas ça. C'est ici et maintenant, tout le temps.
Ouais.
Et justement, c'est en ça, je voulais parler de ton nouveau spectacle, parce que comment tu réussis, tu disais, hein, je suis un mec qui travaille sur le long terme, et donc je travaille en public, mais il y a un moment, ton premier spectacle est terminé, t'attaques le nouveau, moi c'est quelque chose aussi auquel j'ai été confronté, là, j'attaque mon troisième, donc j'ai vécu les mêmes choses en même temps que toi, la bascule, le moment où tu quittes ton bébé que t'as éduqué, c'est-à-dire que tu l'as travaillé, peaufiné, Tu t'es trouvé à travers ce spectacle, t'as compris quel genre de philosophie t'animait, et le cut, et ensuite faut remonter sur scène, et là pour le coup t'as rien quoi, t'as juste l'envie, en plus l'envie d'écrire devant des gens, tu te retrouves devant des gens qui t'écoutent en disant bah vas-y fais ce que tu fais d'habitude, tu dis mais j'ai plus d'habitude. Comment t'as géré ça le nouveau qui a quel âge déjà?
C'était en août. Presque
un an et demi, mais il s'est arrêté en mars, du coup, comme tout le monde.
Ben, ça a été que, tiens, on a fait la dernière en juin.
Et, Rex
non, à Bordeaux. Parce que je veux toujours finir un spectacle à Bordeaux, d'où je viens. La vie est un cercle. Et donc, on avait fixé, voilà, t'as 2 mois pour écrire, quoi. Et
t'as écrit ou pas?
Non.
Parce que moi, ça c'est long. T'as 2 mois pour écrire, pas de problème. Ouais. Et tu calcules, tu dis, mais j'ai toujours été capable d'écrire en 2 jours des vannes.
Exactement.
Et quand tu. Enfin, ouais. Et donc, pardon, je t'ai coupé, mais.
Non. Et là, en fait, je le raconte dans le précédent spectacle. Mais je pars en vacances avec mes parents, en Thaïlande et au Cambodge.
Ouais.
Et je rentre le 30 juillet. Et ma première est le 31 juillet, en fait, au point virgule. Et j'ai rien écrit.
C'est demain, quoi.
Ouais, ouais. J'ai vraiment rien écrit, quoi. Ouais, j'ai quelques notes, tu vois, de...
Oui, tu sais à peu près que cette histoire-là, tu vas pouvoir la raconter, tu sais pas quelle va te faire
exactement,
dedans.
Exactement.
En plus, t'es bon en impro.
Et donc, je fais une sieste en rentrant.
Le donc le plus logique du monde. Donc, je fais une sieste.
Ben oui, le 31 heures. Juillet, je joue... J'arrive à 7h du mat'. Je me dis, je joue le soir à 20h, j'ai le temps de faire une sieste et après me réveiller, de lire les trucs, quoi. Et je devais jouer à 21h30 et ça sonne. Et là, il y a Benjamin, mon chargé de prod, qui est là. Il est 22h15. Tu fais quoi?
Parce que t'es en retard. Enfin, c'est-à-dire que tu devais jouer à 21h30.
Et j'ai déjà 45 minutes de retard. Parfait. Quand il me réveille.
Et t'es dans le 18e, ok.
Et qu'il me réveille en slip, quoi. Et donc, ouais, bah, j'arrive. Et heureusement, il y avait Yacine qui était prévu pour la première partie, qui a tenu.
8h, du coup.
Voilà. Non, s'il y avait Yacine et Paul Taylor qui jouaient avant, ouais. qui ont parlé avec le public. Et je suis arrivé, voilà. Et j'ai raconté les histoires, j'ai raconté ce qui est arrivé, j'ai trouvé des blagues sur le moment.
T'es dans la survie de ouf, de toute façon, qu'est-ce que tu veux monter sur scène en disant « Vous inquiétez pas, j'assure
ah, ». Non, mais tout le monde chiait du sang, hein. Que ce soit Benjamin, tout le monde, la prod, Fanny, tout le monde.
Toi le premier, à mon avis. Hein. Est-ce que tu t'estimes qu'il y a une peur de te lancer dans la création ou est-ce que c'est décidé? Est-ce que tu sais que tu vas mettre du temps? Est-ce que tu sais que tu es un mec de dernière minute? Est-ce que tu sais que de toute façon, tant qu'il n'y a pas les gens, tu n'y arriveras pas? C'est une prise de décision ou c'est ton corps qui te dit allez, occulte, ferme les yeux, dors?
Non, mais c'est ça. Je pense que je suis un procrastinateur.
Un procrastinateur.
De fou, de fou. Et ça a toujours été comme ça, autant sur les études que dans la vie. C'est vraiment, je pousse jusqu'au bout pour faire les choses. Et donc, du coup, ça a été un mode de fonctionnement qui a duré. Bon, ben, ça fait 40 piges que je survis comme ça.
39, hein.
Ouais, j'avoue.
On fait trop tourner, c'est ce qu'il faudra.
Exact. Et ouais. Et c'est pour ça que le confinement m'a fait bizarre, en fait.
Parce que là, t'as le droit.
Ben ouais, ben c'est ça. Mais c'est que tu procrastines. Tu dis demain, je le fais. En fait, là, il n'y a pas de demain.
C'est le même jour qu'aujourd'hui. Ouais. Parce que demain, c'est hier. Non, ouais, c'est après-demain.
Exactement. Chaque jour est un dimanche, en fait. Et c'est...
Du coup, t'as pas bossé, toi, pendant le confinement, là?
Ben, frère, j'ai acheté tellement de bouquins en me disant, putain, je vais revenir tellement cultivé, m'élever parce que il y a ces axes-là que j'ai envie de travailler, etc. Et j'ai rien lu.
C'est génial. C'est génial d'imaginer la volonté qui te... En fait, moi, je crois qu'on s'est confronté à ce qu'on était nous-mêmes capables de faire en réalité. Moi, je me suis, par exemple, vraiment fantasmé comme étant un bon papa. J'adore, je passe énormément de temps avec mes trois enfants, vraiment je joue beaucoup avec eux, etc. Et le confinement, je l'ai vu comme un moment de cool. Tu vois, mon petit, le dernier, il avait un an et demi. Je me suis dit, bah, là, pour le coup, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir vivre avec lui tous ces moments hyper sacrés et je vais en profiter à fond. Bon, il s'avère qu'il faisait pas ses nuits, donc au bout de trois jours, j'étais défoncé de fatigue. Et donc en réalité, j'étais confronté à une autre difficulté. C'était pas du tout la simplicité que j'avais imaginée. Et comme toi, tu t'achètes les bouquins en disant « je vais avoir le temps, je vais faire les trucs et machin », bah n'empêche qu'en réalité, chaque mise en route, chaque décision, elle doit s'accompagner de quelque chose. T'as procrastiné dans ta glandouille, c'est quand même incroyable.
C'est exactement as. Et je crois que j'ai élevé la procrastination au niveau olympique, là. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais moi, je crois qu'on a besoin de notre partenaire. Moi, c'est ça que je ressens maintenant. C'est que, pareil, j'ai essayé d'écrire. Alors, j'ai pu écrire un petit peu, un peu avec Tania, parce que je savais ce à quoi Tania était confrontée, Tania Dutel, avec qui je travaille. Je savais que sur son spectacle, elle avait des nouvelles idées qu'elle n'avait pas terminées. Et donc, je m'étais dit, si elle est comme moi, elle va avoir besoin de quelqu'un qui lui... Donc, je lui ai donné des devoirs. Je lui ai dit, bah, tiens, on va travailler 10 minutes sur ça. Et puis, on se faisait des ping-pong. Et donc, j'avais une facilité incroyable à lui renvoyer des trucs. Je prenais 3 heures pour bosser sur son texte. Elle me renvoyait son texte. Je dis, ah ouais, peut-être ça, essaye ça. Et puis, on se renvoyait des trucs. Et franchement, j'ai bien bossé sur Tania. Mais alors, sur WAM, zéro. Je n'ai pas réussi à me mettre l'impulsion. Et en fait, je crois qu'on est des duettistes. On appelle ça du one-man show, mais pour moi, on a besoin d'une oreille en face. On a besoin du ping-pong, du public. Moi, c'est le public qui me manque.
Après, peut-être aussi que c'est juste ton mode de fonctionnement où c'est plus facile pour toi d'aider les autres
que
d'aider toi-même. En te disant que, de toute manière, moi, ça va aller.
Ouais.
J'ai pas autant besoin de moi qu'elle a besoin de moi.
Il y a peut-être un peu de ça. C'est vrai que j'aimerais bien être un bon producteur. Ouais. Et donc, j'essaie de trouver toutes les solutions pour pouvoir l'aider. Et puis, il y a aussi la facilité, l'agréable. Je ne sais pas comment tu... Tu as déjà écrit pour d'autres ?
Oui.
Et moi, j'ai une... T'écris ou on t'envoie des trucs et tu les punches ?
Les deux. Ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est... quand toi, t'écris pour les autres, t'as direct... Ah oh, putain, c'est marrant.
Ouais, c'est vrai.
Alors que quand toi t'écris pour toi, non.
T'es tout seul.
Donc on a ce besoin de reconnaissance, là, de se dire que ce qu'on fait, c'est bien en fait. Ouais. Tu vois. Donc c'est plus facile de se dire, ben voilà.
Et puis partir d'un travail aussi, moi c'est vrai que je reçois l'histoire qu'elle avait sur les catacombes, où elle envoie des trucs et ça me donne une idée pour pousser le truc plus loin. Et donc j'ai déjà une base. Alors que je sais que quand je suis auteur sur mes textes, enfin je suis auteur de mes textes, ouais. Mais je veux dire à l'écriture, il faut que je me déclenche en plus un truc pour me dire qu'est-ce que je peux trouver de mieux que ça. Alors que quand je reçois un texte déjà fait, je le lis et je me dis là je peux trouver mieux, là je peux trouver mieux, là je peux trouver mieux, là je peux améliorer, là je peux aider. Alors que dans mon texte à moi, j'ai toujours l'impression que je suis au max de ce que je suis capable de faire.
C'est ça, c'est que t'as l'impression d'être déjà au max en fait. Et qu'on te dise ça c'est bien en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin du public, en vrai.
Il y a vachement de vannes, tu le disais tout à l'heure, toi t'écris en public, donc c'est encore pire. Moi je sais qu'il y a énormément de vannes où j'arrive, je suis dans mon virage, je sens le public qui me dit un truc, et je me dis merde, j'avais pas du tout prévu de puncher à ce moment-là, mais clairement le public il est...
Oui, il a envie là.
Il est là quoi, on est sur le point G, donc fais ce que tu dois faire maintenant pour que je puisse machin. Et ouais, il te pousse parfois à te dire mais c'est là que j'avais envie de rire. Pourquoi tu m'as pas, tu m'as pas mis de vanne ?
Ouais, t'as pas chopé là. Mais oui, pourquoi t'as pas baisé là ? Oh, je suis sur le dos, qu'est-ce que tu fais ? Mais oui. Non. Non, puis il y a ce truc de survie aussi, tu sais, où quand tu pars dans une impro... Tu sais, tu es en train de faire le truc, et puis tu dis, attends, à un moment là, il va falloir que ça rigole là.
Ah ouais.
Et c'est tellement jouissif.
Quand tu trouves.
Ouais.
Enfin, que.
Ouais, ouais.
Là, pour le coup, moi, l'idée de quand tu trouves, je t'ai déjà vu trouver, c'est pas toi qui trouves. C'est y a un gars là qui te met juste au-dessus de ta tête le petit truc, paf, qui rentre dans ton cerveau et qui explose. Combien de vannes naissent et c'est l'univers qui te les donne, c'est pas cerveau, c'est l'histoire de, enfin c'est.
Bah, c'est la vie en fait. C'est pour ça que ce confinement est bizarre parce que moi je raconte ce que je vis.
Ouais.
En fait. et quand tu vis rien.
C'est chaud.
C'est chaud. Et du coup t'es constamment en introspection et
c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. Ah ouais. Il y a fou. Pas que des trucs bien à l'intérieur.
Non mais je te jure. C'est là. La dernière fois, je me suis douché, je me suis dégoûté. Je me suis dit, mais frère, ça fait combien de temps que tu t'es pas douché ?
Douché ou touché ?
Douché. Douché.
Sous la douche, je me suis
dit. Ben oui, je me suis dit, mais mec, en vrai, tu te douches que pour les autres, en fait.
Ben, ça me fait plaisir, merci. Mais tu vois, moi, c'est un truc, là, pour le coup, avec les enfants, j'ai une rigueur que d'autres humoristes n'ont pas. C'est-à-dire que moi, le matin, j'emmène les enfants à l'école ou à la crèche. On mange à telle heure. Enfin, il y a toute ma journée, elle est vachement ritualisée.
Et moi, c'est ce qui m'impressionne vraiment chez toi. C'est toi, Kian et Baptiste. Pour moi, vous êtes les Stakhanovits en fait. Vous êtes la rigueur.
Ah ouais.
Ouais. Pour moi, c'est en mode vous êtes voilà. Il faut faire des trucs quoi.
Et ah, c'est marrant.
Moi, c'est ma vision que j'ai de vous trois.
Ah, c'est très drôle, ouais. Moi, je crois que. Ouais, on doit l'être chacun à notre manière. Moi, je suis vraiment pris au piège de ça. Je me suis moi-même pris au piège. J'ai organisé les petits pièges dans lesquels je tombe régulièrement. Mais clairement, je vivrais en coloc avec toi, hein, si j'avais pas d'enfant. Et on prendrait des douches tous les 8 ans, tous les deux. Mais je pense que la rigueur peut faire partie d'un truc. Essayer peut-être de se surprendre de temps en temps, d'avoir des phases de changement de créativité. Et j'ai fait ça pendant une période où le matin, de 9 à 13, je coupais mon Wi-Fi, je coupais mon téléphone, j'étais injoignable et j'étais devant mon ordinateur. J'avais même pas Internet. Enfin, j'avais même pas Internet. Le gars, il t'explique. Ouais. J'avais même pas Internet. Et je me suis retrouvé, en fait, dans des conditions d'introspection parce que t'as pas le choix. C'est ton cerveau, il est fait pour papillonner. Ouais. Il est fait pour chercher une solution pour rien faire. Tu vois, ça va très vite d'être en train d'écrire des blagues et puis d'un coup de regarder quand même si t'as pas reçu un mail sur Facebook ou je sais pas quoi. Là, d'un coup, te retrouver Wi-Fi coupé, le premier jour, gars, je me retrouve à jouer avec la toupie. J'étais dans la chambre de mon fils, ce que j'écrivais là-bas, et il avait une toupie sur sa table. Pendant 2 heures, j'ai joué avec une toupie. Et au bout de 2 heures, je me dis, mais vraiment, t'en es là. C'est-à-dire que tu repousses les limites de l'inactivité.
Oui,
là, t'as rien d'autre à faire. Tu trouves le moyen de jouer avec une toupie. C'est-à-dire vraiment, t'es à la recherche de perdre du temps.
Ouais, t'es à la recherche de perdre du temps. Ouais.
Sauf que, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ouais, j'ai perdu du temps à fond, mais pour un truc inutile. Alors que d'habitude, t'as la sensation, le monde entier te fait croire que ce que tu fais est indispensable. C'est-à-dire que quand t'es un peu sur Instagram à regarder des actus, quand t'es un peu à envoyer des mails à des fans sur Facebook qui te disent bravo, j'adore ton travail et à qui tu dis merci, t'as l'impression déjà d'être un bon gars parce que tu réponds aux gens, t'as l'impression que ça fait partie de ton taf. Quoi.
Ouais.
Et
mais après, est-ce que aussi, c'est pas aussi inutile que ça, quoi, d'avoir fait tourner cette toupie?
Ouais, je pense que je me suis retrouvé confronté au choix.
Ouais.
T'écris ou tu fais tourner une toupie?
Oui, mais du coup, en tournant cette toupie, tu t'es mis une graine de « Attends, j'arrive à ce point-là, à repousser les choses. Est-ce que c'est commun aux humains, en fait ?» Parce qu'en vrai, le stand-up, c'est juste ça. C'est trouver ce qu'il y a en commun entre nous tous.
Ouais.
Et de trouver le chemin le plus court entre une idée que tu as dans ta tête et que quelqu'un d'autre a la même idée et ne trouve pas les mots.
T'as déjà eu des sensations comme ça où t'écris un truc, tu te dis mais ça, déjà si je le montre, il est possible que j'ai l'air d'un con. Parce qu'on se rend pas compte, mais quand t'écris ton idée de base, on a la même crainte d'être repoussé du groupe.
Ouais.
Et t'écris ton idée de base, tu vas la montrer sur scène, tu te dis mais si en face personne, enfin si je suis exclu du groupe entre guillemets, hein, c'est vraiment j'ai cette sensation là, l'humain est fait pour vivre en meute en gros, enfin c'est comme ça, on est des animaux faits pour vivre à 200, on n'est pas fait pour vivre à 7 milliards, donc dans une salle de spectacle on est 200, si t'es le seul qui est pas validé, c'est à dire que tu donnes ton truc et tout le monde dans la salle fait ah non, à aucun moment t'as intérêt à t'en battre les yucks pour de vrai, de pouvoir leur dire je suis conscient et du coup de te réintroduire dans le groupe en disant ok, j'ai vu que j'étais pas dans le groupe, je suis d'accord avec vous, c'était ridicule. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de trouver un axe qui te semble percutant et qu'en fait c'est une flaque d'eau, quoi?
Ben, en fait, moi, ça m'est arrivé sur tu vois, le sketch avec les chats.
Ouais.
Donc c'est un sketch avec Dudo, tu vois, où je parlais de ce deux poids, deux mesures.
Ouais.
Et
c'est pas un sketch en duo avec Dudo, c'est un sketch où tu parles de Dudo. Ouais.
Et les premières fois que j'ai joué, les gens me faisaient non.
Ouais.
Non!
C'est un sketch, si je ne me trompe pas, il y avait plein de jeux de mots dedans.
Ouais.
C'est vraiment, je crois que tu es le seul gars à pouvoir faire des jeux de mots aujourd'hui. Hein,
dans
le
non.
Où on dit, ouais, c'est marrant quand c'est lui qui le fait. Moi, j'aurais fait le sketch des chats.
Oui,
j'aurais
arrivé
avec ma chaloupe. Et... mais laisse tomber, les gens, ils m'ont regardé en faisant, va travailler, vraiment.
mais bah, en fait, c'est avec la vanne de. Quand j'ai trouvé les chats, c'est les juifs des animaux.
Ouais.
Là. Ça a fait tout accepter. Tout ce que je disais a été accepté, en fait. Alors que c'est la même chose. Il y a juste cette prémisse-là qui fallait, quoi. Et c'est pour ça que, tu sais, quand tu sors d'un bide, où tu te dis, ou d'un test, ou donc t'es exclu du groupe, des gens qui rigolent, quoi.
T'es à côté, toi. Ouais. Regardez, c'est le gars qui nous a pas fait rire.
Il faut réussir à se dire... Le frère, en vrai, c'est marrant.
Ouais.
Tu vois, comme là tu sais, dans mon nouveau spectacle, j'ai un sketch où je dis en vrai, nous sommes tous des putes, quoi.
Le quoi?
On est tous des putes.
Ouais.
On est tous la pute de quelqu'un, on fait ton...
C'était la fin de mon précédent spectacle.
Ouais.
Ouais, j'ai été votre pute et j'ai joui. J'ai pris du plaisir et on s'en fout que t'aies pris du plaisir. Yeah, si. Bah si, c'est mieux. Si tu couches avec une pute, elle te dit j'ai joui, c'est mieux. Bah, ce soir, j'ai été votre pute et j'ai joui.
Voilà. Mais voilà, je dis ça. Je dis juste que qui que tu sois, tu loues ton corps, ton esprit, ton temps pour de l'argent. Donc on est toutes des putes. Toi, t'es un fils de pute, etc. Et tout. Et tu sais, quand la première fois que j'en ai parlé, c'était avec, avec Eric. Et
Judas.
Oui.
Ouais. Il me disait, ça y est, t'es rentré dans cette.
T'étais au niveau. Dans Sardine name dropping.
Le gars, il a plus besoin de dire les noms de famille.
Et il me dit, mais non, moi, je suis pas une pute, moi. Je fais ce que j'ai envie. En ouais. Fait. Et je fais, non, toi, t'es juste une pute qui aime le sexe. T'es une salope. Et qui aime baiser avec n'importe qui. Voilà.
Bah, t'es quelque part libre en fait de choisir ton partenaire et de. T'es une pute de luxe.
Ouais. Mais oui, ouais. Mais c'est vrai que quand je lui parlais de cette idée-là, il me dit non, moi je vois pas du tout le monde comme ça en fait. Et il a fallu que je réfléchisse à plusieurs
actes. Que je le menace.
Que je lui fasse des virements pour qu'il comprenne.
Là, il a compris, moi.
Voilà. Non, mais oui.
Et il a revu ce passage-là ?
Ouais.
Et alors, il est d'accord maintenant ? Ou toujours pas ? Il se lève au fond de la salle. Non !
J'ai dit non. Non, c'est non. Est-ce que vous allez comprendre ? Me too ! Eh bien, lorsqu'il a vu, il m'a dit un des plus bons compliments qu'on m'ait dit. C'était que j'étais le Dave Chappelle français, en fait.
Ah.
Que je pouvais dire des choses dont on n'est pas d'accord, mais que... en vrai, on est obligé d'être d'accord.
Ouais, exactement. C'est souvent quelque chose qu'on a chez Dave Chappelle. C'est-à-dire, au début, tu te dis où est-ce que tu veux aller ?
Où tu vas, toi ?
Et puis, en fait, pendant le truc, il te dit OK. En fait, c'est effectivement, il fait partie. Ouais, c'est un putain de compliment parce qu'il fait partie des gars qui te sortent de ta zone de confort. C'est-à-dire que. Il va te dire, j'ai pas d'exemple en tête, mais. Il va te donner un point de vue inacceptable, mais comme si j'en ai un sur Louis C.K. Qui parlait qui parle de pédophilie disant on est trop dur avec les pédophiles, et que déjà tu vois ça, tu dis mais comment on peut être trop dur avec les pédophiles, et puis qui déroule son argumentaire, on est trop dur avec les pédophiles parce que si un pédophile se fait attraper, il va se faire, enfin toute la société va être contre lui, il va aller en prison, tous les prisonniers seront contre lui, tout le monde va le lyncher, il va sortir de prison, ce sera jamais terminé, et donc il est obligé de faire disparaître le corps. Il faut qu'on soit moins dur avec les pédophiles
pour c'est vrai qu'il était déjà cassé.
Ça marche encore. Mais oui. Donc, faut qu'on soit moins dur avec les pédophiles pour qu'ils arrêtent de faire disparaître les enfants. Et tu peux absolument pas être contre l'idée. Par contre, à vie, tu seras contre la prémisse et ils t'emmènent vers ça. Mais ouais, effectivement, c'est beau déjà d'avoir réussi à. Et d'une. Parce que autant quelqu'un qui te dit c'est pas marrant, d'accord. Quand c'est Eric Judor, qui fait partie pour moi des gars les plus marrants du game, qui te dit réfléchis bien.
Tu as tendance à te dire, il faut réfléchir quand même.
Ouais.
Après, moi je me dis, toi t'as fait ta carrière en faisant mieux le chinois que moi.
C'est vrai.
T'es un petit fils de pute quand même.
Dis donc, t'es bon doux.
Allez, chat, allez, chat, maman.
C'est vrai qu'il a une dette envers toi et toute la communauté. Jusqu'à la fin du monde, quoi. Ah, est-ce que tu ressens un truc, tiens, c'est marrant, je pense à ça du coup pour le chinois, mais de voir comment la puissance chinoise évolue, parce que quand on s'est rencontré en 2006, les Chinois c'était encore, tu sais, cette espèce de condescendance occidentale, on a un racisme, je trouve, condescendant avec les Chinois, on n'a pas un racisme méchant, donc les gens ne comprennent pas le racisme envers les
Asiatiques. Asiatiques,
parce que pour eux c'est pas méchant, mais tu sais, c'est comme une femme où tu lui dis mais non, mais t'es mignonne. Moi, je suis féministe, je dis que t'es mignonne. Bah, en fait, je te demande pas si je suis mignonne ou pas, je veux être ton égale, c'est ça. Et je trouve qu'effectivement, il y a un racisme condescendant avec les Chinois.
Oui.
Seulement là, clairement, la Chine prend de l'ampleur sur l'espace international. On entend Xi Jinping qui prend la nouvelle route de la soie, tout ça. Il y a quand même une...
C'est passé du racisme positif, tu vois, parce que ça, j'avais écrit un sketch sur ça, à aujourd'hui une vraie peur, en fait.
Ah, tu crois qu'il y a une vraie peur ?
Il y a une vraie peur, mais pas du chinois. Je pense que, en fait, la Chine, elle agglomère toutes ces peurs de. En fait, on n'est rien.
Nous, les humains, on n'est rien ?
On n'est rien.
Ouais.
En fait, on ne peut pas lutter contre bah, contre ce monde, quoi.
Ouais. Et la Chine représente ce monde à l'heure actuelle, selon toi, c'est ça ?
Bah, c'est-à-dire la surpopulation, la pollution, la surveillance de ouf, la dictature.
Et en même temps, c'est nous qui avons créé tout ça, parce que la pollution chinoise, elle est due au fait que on a enlevé nos entreprises françaises parce qu'on voulait moins polluer, et que du coup, on a exporté même nos pollutions, polluants, dans des pays. Bon, c'est le Kazakhstan maintenant qui prend tout ça, parce que la Chine, elle arrive à un stade où elle dit non,
ça va.
Gardez vos bouteilles en plastique, ça nous intéresse plus.
On va les donner à d'autres, quoi.
Mais c'est vrai que c'est flippant. Il y a ce côté un peu 1984. T'as l'impression que la Chine peut la république
démocratique chinoise,
démocratique dictatoriale, une dictature républicaine. Enfin, il y a un truc, il y a effectivement quelque chose qui est. Je ressens l'espèce de flip. Moi, je suis pas terrifié par la Chine parce que je suis pas assez qualifié pour savoir exactement. Tu vois, je connais tellement rien au niveau international, géopolitique que je vois bien. Je me doute bien quelque chose qui cloche. Si on laisse les Ouïghours se faire massacrer, clairement, c'est que on n'a pas les moyens d'agir pour faire quelque chose.
C'est pas qu'on n'a pas les moyens, c'est qu'on est responsable.
Ouais.
C'est parce que.
Nike, Zara,
c'est parce qu'on met tout.
C'est notre mode de consommation qui crée cette pauvreté-là, en fait.
C'est parce qu'on a besoin d'acheter des trucs moins chers qu'on les fait fabriquer gratuits.
Alors que si on fabriquait de l'humour, on ferait bosser des Chinois, mais des Chinois marrants.
Ben oui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de vannes de contrefaçon et qu'on les vend en carambar. Mais oui. Et donc, aujourd'hui, la Chine, en fait, elle agglomère juste ce que nous, on peut devenir. C'est parce que notre régime pseudo-démocratique, il se tourne vers ce que le régime chinois.
Dictatorial,
quoi.
Celui qui. Enfin, dictatorial, encore une fois, c'est
Contrôle de masse, t'as pas le droit de parler. En vrai, tu choisis pas tes dirigeants. Parce que la Chine, c'est honnête. C'est-à-dire qu'il y a un parti, ils se choisissent entre eux pour être le président, point.
Ouais.
Et c'est ce qui se passe en vrai avec la démocratie. C'est qu'il y a. Il y a une caste qui se choisissent entre eux et qui nous font croire qu'on a le choix, parce que nous, on a le choix parmi leurs choix.
Ouais, bah c'est Coluche qui disait ça, quoi. Si vraiment voter, ça changeait quelque chose, ça fait bien longtemps qu'on n'aurait plus le droit, quoi.
Bah oui.
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce côté-là. Est-ce qu'on réussit en étant une population si grande, j'en parlais tout à l'heure, où effectivement l'être humain c'est un animal social mais qui est fait pour vivre dans des micro-sociétés, pas des sociétés mondialisées. On est 7 milliards sur la planète, comment tu fais pour organiser tout ce bordel? 1,4 milliard en Chine, comment tu fais pour organiser ce nombre de personnes-là, même en France, tu vois combien de personnes au fond se sont pas déjà dit une dictature ça ferait avancer les choses? Tu vois, le moment où tu dis les limites de la démocratie.
Mais elles sont là, les royalistes.
Ouais.
Et on a toujours été comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il arrivait un moment. On est un troupeau et il nous faut un chef.
Ouais.
On a besoin d'un chef.
Oui, mais à la fois, on n'en veut pas. Enfin, je ne sais pas comment tu ressens ça, mais j'ai l'impression, toi, que t'es... Effectivement, c'est les puissants qui sont révoltants. Cette sensation de caste, effectivement, qui domine. Je suis vraiment partagé là-dessus. C'est-à-dire que d'un certain côté, je vois les dominants aujourd'hui où moi, j'ai un côté antipolitique. Moi, je n'aime pas ça, ça me déplaît. J'ai l'impression de me faire baiser à chaque fois que je vote pour quelque chose. J'ai l'impression qu'on ne me dit pas tout et j'ai l'impression que je ne suis même pas capable avec mon cerveau de comprendre tout. Donc, on me dit quoi voter grosso modo parce que les médias, parce que Facebook t'influence, etc. Ou parce que même l'ensemble de tes concitoyens t'influence. Et donc, tu finis par te laisser emporter par globalement cette vague-là. La question du vote, elle est primordiale. La question de la manière de voter aujourd'hui, elle est flippante parce qu'elle fait tourner effectivement toujours cette même caste de puissants. Cela dit, est-ce que comment on ferait ? Moi, les puissants, ça me dérangerait pas s'il y avait un turnover. C'est-à-dire que
moi, c'est pour ça.
L'ascenseur social peut faire monter rapidement quelqu'un qui a un.
C'est pour ça que je prône moi le tirage au sort.
Ouais.
C'est-à-dire que, on se met tous d'accord, c'est nawak, mais il faut que ça change. Et ça ne sera pas pire.
C'est nawak, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment, c'est nawak ?
Non, c'est que quel que soit ce qui se passe, on sera mal dirigé. Donc autant que ça change, en fait.
Bon, ça finira par changer de toute façon. Enfin, c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Il y a toujours un moment où ça crise. Ah, tu crois pas ?
Ah non, tu regardes l'humanité, on a toujours accepté.
Jusqu'au moment où ça rompt et où on coupe la tête du roi. Tu vois, et derrière, ça recommence.
Mais c'est parce qu'en fait, l'humain, comme je te dis, a besoin d'être dirigé. Et donc, du coup, on a donné le pouvoir à l'élu de Dieu. C'est parce qu'il y a Dieu, il a dit, tu sais, toi, tu seras. Toi, t'es le fils, t'es le roi.
Ouais, et tu après, prends c'est... Dieu, toi ?
Non.
Non.
Non, non. J'ai tellement déjà du mal à croire en moi.
Moi, je crois en toi plus qu'en Dieu. Ça peut te faire plaisir.
Mais, oui. Parce qu'on est une société, en fait. Donc, on a besoin. Tu sais, même dans un couple, tu vois, même à deux, il faut un dominant dominé.
Ah, je sais pas, c'est pas comme ça qu'on vit, nous.
C'est ce que tu crois.
Tu veux dire que je suis la pute de quelqu'un ?
Ouais, t'es la pute de ta femme.
Moi, je crois qu'on est codépendant. Moi, je verrais plutôt ça comme une interdépendance et que... Après, c'est ma relation avec ma femme, donc pour le coup, c'est plus compliqué d'être... Tu vois, je suis dedans, donc j'arrive pas à voir peut-être bien qu'il y a un dominant, un dominé, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression... Pour moi, c'est un problème de nombre. Pour moi, c'est comme on est 70 millions en France, il faut sortir quelqu'un qui va pouvoir prendre des décisions pour tout le monde.
Ça serait quoi le nombre, alors, pour toi ?
Moi, vraiment, 200. Je trouve c'est chouette.
Il a tellement dit ça au hasard, sa mère.
Non, pas du tout. C'est que je trouve que, justement, c'est le rapport. En fait, tu peux connaître les gens, parler, être pas d'accord, avoir le droit d'être en désaccord. Là où aujourd'hui, en fait, on est soumis à une espèce de masse pensante globale. C'est-à-dire que tu dois suivre une espèce de...
Ben oui, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'à partir de 3, c'est fini. En
fait. À partir de 3, c'est fini. Ben oui, ouais, toi, c'est que... chaud quand même. Ben oui. Tu fais que des couples.
Ben non, parce qu'à partir de 3, en fait, il y a une majorité. Et donc,
oui, mais du coup, à 200, ces majorités, elles s'interchangent. Il y a quelqu'un qui peut donner son avis. Il y a un équilibre qui se crée. Mais en attendant, on peut tous se parler,
oui,
tous se voir.
Mais même s'il y a l'avis, il y aura la majorité qui dirigera.
Ouais. Et encore, et donc, faut accepter aussi comment on gère. Parce qu'on est dans une démocratie où, en théorie, le mot démocratie, ça veut dire que c'est la majorité qui décide.
Oui, oui.
Or, aujourd'hui, la démocratie, j'ai l'impression que chacun croit que la démocratie, c'est on est en démocratie, j'ai le droit.
Ouais.
De faire ça. Oui, mais en fait, non. C'est pas ce que tu prônes, ça. Ça, c'est la dictature. Ouais. La démocratie où chacun fait comme toi tu veux, c'est une dictature. C'est pas ça, la démocratie. C'est pas des mini-démocraties. Mmh. C'est qu'on est tous d'accord pour dire que. Bah, après, c'est le. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est la majorité qui doit l'emporter. Maintenant, moi, je mettrais plus des doutes sur la manière, sur le scrutin qui mène à cette majorité-là. C'est-à-dire que c'est pas une majorité. C'est une majorité à chaque fois où. Tu sais, il y a des. Il y a pas mal de documents qui sont faits là-dessus sur comment on pourrait organiser une élection pour qu'elle soit juste. C'est-à-dire que tu mets 5 candidats et tu vas mettre des points.
Ouais, ouais. Un et puis point après, de et fur et à mesure, ils se font éliminer, etc.
Ouais, et puis sur tes 5, toi, ton numéro 3, il a tant de points. Mmh. Et donc, en fait, au final, on voit réellement la majorité. Alors que là, on est l'un face à l'autre à chaque fois. Et puis du coup, à la fin, c'est celui qui sort. Mais celui qui sort, c'est pas celui pour lequel tu aurais voté à la base, quoi. Et c'est vrai qu'en Chine, du coup, il se passe de ça, hein, puisque Xi Jinping est président à vie, quoi.
Mais oui, mais parce que
ça ressemble à une dictature.
C'est une dictature. C'est comme Poutine, etc. Ouais. Mais on est dans une dictature light, en fait. C'est que
Est-ce qu'on n'est pas dans une dictature aussi dans ce monde, dans notre. Oui, c'est ça. Tu parles de notre société à nous.
Oui, oui.
Pour moi, oui, on est vraiment dans une vraie dictature, mais une dictature. Je dirais pas light parce que c'est une dictature dans laquelle on est déjà à la base censé être un peu heureux. Enfin, tu vois, l'individuel compte. Mmh. On le voit bien quand on parle de génocide à l'extérieur et qu'on s'y intéresse peu. Alors qu'en France, il y a 3 gars qui meurent du Covid et ça devient un problème général, sans remettre en question le nombre de personnes qui sont mortes de cette maladie, évidemment. Mais je veux dire, il y a 10 millions de personnes par an qui meurent de faim. Ça nous pose aucun problème parce que c'est pas chez nous. Là, on a 1 million de morts du Covid. L'Occident est touché de plein fouet. Donc, je pense que notre dictature, en soi, elle est attentive aussi au bien-être des gens qui la nourrissent, quoi.
Elle est attentive au bien-être des Blancs.
Exactement.
C'est parce qu'on aurait mis tous ces moyens pour éradiquer la faim dans le monde.
Mais c'est réglé.
Et on aurait dit, on est malade, eh ben mourrez, point. Mais c'est pas grave. On va ken. Si on aurait fait ça, on aurait géré, on serait vraiment servi de cette crise pour créer un monde nouveau, en fait.
Ouais, ouais. Mais c'est fou, hein, quand on nous parlait du monde d'après, tout ça, moi, j'ai hâte, quelque part, du monde d'après. Mais pour moi, le monde d'après n'interviendra pas tant que ce sera... Il n'y aura pas une césure officielle, tu vois. Tu le
mais il n'y aura jamais de césure.
Ah, il y a quand même... Il y a quand même plusieurs crises qui font que ça commence à grommeler, quoi. Moi, je suis pas certain. Je suis pas certain que l'être humain va se laisser affaiblir et asservir comme ça.
C'est.
Mais peut-être que j'ai tort.
T'as tellement tort.
Ouais.
T'as tellement tort. Quand quoi. Je suis désolé, mais il y a eu un an et demi de gilets jaunes. Il s'est rien passé. Elle va passer quand même. Ça fait un an que ça grommelle. Il se passe rien. Là, ça fait quelques semaines qu'il y a tous les samedis des manifestations contre les violences policières, il ne va rien se passer non plus. Aux États-Unis, c'est la même. Il y a des millions de morts, de mecs qui crèvent la dalle et ça ne change pas.
Ouais.
Donc,
Mais pour moi, quand je dis... Enfin, je ne dis pas que ça va changer... Enfin, je dis que ça va changer un moment pour une crise. C'est-à-dire que les gilets jaunes, ça ne change pas parce que... c'est pas si dérangeant, c'est ça que je veux dire. C'est que en fait, il y a que le moment où il va y avoir une prise de pouvoir, qu'il va y avoir réellement un changement. C'est-à-dire que si on veut changer aujourd'hui, dire à nos dirigeants, ce serait bien de changer un petit peu, évidemment qu'ils vont pas bouger.
Ouais.
Moi, ce que je dis, c'est que pour le moment où ça changera, c'est le moment où il y aura une rupture totale. C'est-à-dire que le moyen de gouvernance...
Mais ça serait comment, cette rupture totale?
J'en sais rien. Moi, dans mes rêves, ce serait un système anarchique, moi, c'est ça que j'aime bien.
Ouais, mais moi, c'est ce que je me dis aussi, tu vois. C'est juste de se dire, viens, on compte sur le bon sens, en fait.
Ouais.
Viens, on fait le parti du bon sens.
Mais c'est parce qu'on est trop nombreux qu'on ne peut pas partir sur le bon sens. Quand on se parle à 200, je reviens sur ce chiffre, le bon sens, il est en plus canalisé par le fait que si demain, ton voisin viole ta fille, tu vas aller voir ton voisin. Et l'ensemble du village ou du conglomérat des 200 va aller voir le voisin. Et donc, il se sentira exclu. Donc, il est obligé, quelque part, de se conformer aux règles du groupe. Là où, dans un monde global comme dans lequel on vit, se conformer aux règles du groupe, c'est accepter des règles. C'est courber le dos.
C'est pour ça qu'on a créé la police, en fait.
Exactement. Et donc, du coup,
la police, pour faire respecter les règles.
Voilà, sauf que bah, du coup, ça crée d'autres abus. Et donc, dès qu'il y en a qui ont du pouvoir, en fait, on est obligé d'avoir des relations de pouvoir presque individuelles à partir du moment où il y a beaucoup de gens, parce qu'il faut faire respecter auprès de beaucoup de gens. Or, bah, c'est pas ce que prenait Proudhon, le père de l'anarchie. C'était au contraire quelque chose de très horizontal, quoi.
Oui, mais c'est impossible.
Ouais, on est en tout cas, aujourd'hui, c'est impossible.
Donc, toi, tu prends un monde post-apocalyptique où on se dit chacun fait comme il veut.
Je pense que. Non, alors l'anarchie, c'est pas du tout chacun fait comme il veut.
Souvent comme il peut.
Comme il peut, ouais. Peut-être, mais en attendant, il y a aussi de la solidarité. Il y a énormément. L'anarchie, on l'a saccagé, en fait. On l'a diabolisé parce que c'était anticapitaliste, en fait. C'est ça le vrai truc.
L'anarchie et le communisme ont été
saccagés.
Ouais.
Alors que ça a fonctionné. Ouais. Enfin, tu vois, en Espagne, en 1935...
Ça a fonctionné.
Ça a fonctionné. Des ouvriers à qui on a donné les usines en disant bah, « vous travaillez à votre rythme », etc., les rendements ont été meilleurs. C'est-à-dire que l'être humain a pu...
On parlait du télétravail, tu vois.
Ouais.
C'est pareil aussi. Les mecs qui travaillent mieux s'ils travaillent à leur rythme.
Ouais, on n'a pas besoin d'un petit supérieur nazi qui vient de coller la pression, forcément. Et je pense que... On a fini par normaliser tout avec ce monde-là parce qu'on est très nombreux, donc il faut normaliser, mais comme l'éducation. Aujourd'hui, il y a très peu d'instits. Je pense à Céline Alvarez, là, qui avait une manière de...
J'ai acheté son livre, mais je ne l'ai pas lu.
Ah ouais. Je ne l'ai pas lu non plus. Mais j'ai vu beaucoup de choses d'elle. C'est passionnant parce qu'elle, elle, comme d'autres avant, Montessori ou Freinet, c'est des pédagogies qui sont complètement à l'inverse de ce qu'on prône aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à revenir dessus, mais nous, toi et moi, on a vécu dans un univers de notation, de classement, tout normalisé. C'est-à-dire qu'il fallait que tu sois bon dans telle matière pour avoir telle école, pour pouvoir tel truc. Et en fait, il y avait un seul chemin de pensée qui était nécessaire parce qu'on était... C'est les premières fois qu'on vivait autant nombreux et donc il fallait pour que...
En fait, tu vois, c'est peut-être que j'ai cette touche d'espoir-là en me disant qu'on a vécu dans un système capitaliste et productif où l'école, cherchais juste à créer de la main-d'œuvre pour des postes, en fait.
Ouais.
Tu fais tes études pour devenir ça, tu fais tes études pour devenir ça, etc. Et qu'aujourd'hui, les futurs métiers n'existent pas encore.
Ouais, ça c'est bien, on fait travailler nos enfants pour rien.
Voilà. Donc c'est à eux de créer leur propre métier.
Mais d'un autre côté, c'est en ça que je dis que ça se fait que par rupture, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans des générations avant les nôtres, je suis assez d'accord effectivement sur le fait qu'on faisait des études pour devenir ça, donc on avait un chemin tout tracé. Mais d'un autre côté, c'est le seul moyen à l'époque que la société a trouvé pour que... bah, y a moins de gens qui souffrent de la pauvreté.
Non, mais c'est ça, parce qu'on vivait dans l'ère de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on crée de la main-d'œuvre.
Il y avait des métiers partout.
Des ouvriers, des fabricants. Tu vois ? Et aujourd'hui, on est dans un truc de service où chacun peut créer son propre service, en fait. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie d'être livreur de donuts à domicile, eh ben voilà, je peux. Être livreur de ta domicile.
C'est fou, hein. C'est vrai, t'as raison, on est dans une ère de service. Je peux pas m'empêcher d'y voir un peu de l'esclavage sous une autre forme, hein, évidemment, mais. Service, c'est tu me sers à quelque chose, quoi.
Mais ouais, bah moi, toi, tu vois l'esclavage, moi, je vois le troc.
Ouais.
C'est-à-dire que le service que moi, je te rends, eh ben, il peut être payé par autre chose, en fait.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est finalement l'ère du troc, la génération de services liée au capitalisme. Bon, après, évidemment, l'argent a été créé pour ça, pour simplifier les liens, mais les échanges, je veux dire. Mais effectivement, de lier ça au capitalisme fait que, je m'énerve contre un livreur qui sonne pas chez moi. Tu vois, je crois qu'on a tous eu ce problème-là chez Colissimo où tu reçois un truc de comme vous étiez pas là, du coup, je l'ai mis à la poste. Où je dis, mais mec! Je suis chez moi, je suis comédien.
Mais oui, j'ai payé 7 euros.
Je t'ai attendu toute la journée.
Ouais.
Mais t'es obligé de te dire aussi que ce gars-là, il a 50 trucs à faire dans la journée, il doit tourner comme un porc, il va à toute vitesse quand il t'appelle 2 secondes avant en te disant « Descendez !»
Ouais.
Et tu dis « Bah non, en fait, j'ai payé une livraison, j'aimerais bien que tu me livres. » Et en fait, ils sont tellement pressurisés par ce monde de service où ils doivent sans arrêt faire plus. Tu vois, le service, finalement, quand tu dis si tu as envie de monter une usine de donuts, truc de livraison de donuts, je trouve ça génial parce que c'est toi qui donnes ton service. Comme nous, on est un service. Mmh. On vend du rire aux gens.
Ouais, ouais.
Mais du coup, notre service, il est respecté. Alors que dans le capitalisme, on va sans arrêt voir ce qu'on peut utiliser. Du truc.
En fait, il y a service et peut-être profit, en fait.
Ouais, bah
c'est-à-dire qu'il arrive un moment, il faut fabriquer moins cher, en fait.
Ouais.
Donc, il faut que ton savoir-faire coûte moins cher que ça. Donc,
Et c'est un problème qu'on n'a pas dans l'humour.
Ah, quoique.
Tu crois ?
Bah oui. Par exemple, quand tu fais un spectacle et que tu dis « moi, j'aurais besoin de 3 écrans », les gens vont dire, mais tu es obligé de te débrouiller comme ça.
Ah oui, t'as raison.
Je fais, non, parce que moi, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Tu vois ? Moi, j'ai envie qu'à un moment, cette blague-là, elle soit sur ces 3 écrans en même temps. Et qu'elle soit divisée en mode, voilà, quoi. Tu sais, il y a ce point de vue, ce point de vue, ce point de vue. Et que ce soit sur 3 écrans. Et pas un écran scindé en 3.
Tu vois ? Je comprends. Ouais, et là, pour le coup, effectivement, c'est le profit qui empêche... Bon, ça, c'est toujours pareil. Hein, et à la fois, toi, quand tu sais que tu remplis tes salles, si tu as envie de tes 3 écrans, bah, tu les mets, quoi.
Oui, mais si toi, tu te dis, à la fin de ma tournée, j'ai un studio ou une maison, tu te dis, bon, ben ouais, en vrai, je préfère avoir une maison, quoi.
Ouais.
Donc, j'oublie cette blague.
Ouais, c'est vrai. Mais d'un autre côté, tu as le choix.
Ouais.
Là où... dans le domaine des services de manière générale, tu vois, le livreur Amazon, il n'a pas tant le choix que ça, quoi.
Oui, mais c'est nous, les consommateurs, qui avons le choix.
Ouais.
C'est-à-dire de se dire, viens, on ne passe pas par Amazon, on va passer par ce site où on va appeler la personne pour qu'elle nous livre vraiment.
Mais ça demande un effort, hein. T'as vu, franchement, hein, je trouve que aujourd'hui, s'ériger vivre avec ses convictions, c'est un enfer.
En fait, je pense que ce n'est pas vivre avec ses convictions, c'est que je pense que l'humain, est profondément mauvais.
Ah, tu crois ?
Dans le sens où il est feignant, en fait.
Ouais.
Si ça vit, ça vit, point. Donc, le moindre effort, mieux c'est. Et donc, du coup, plus les choses... Tu sais, c'est une des satisfactions que tu as dans la vie, c'est de te dire que tu l'as fait facilement.
Ouais. Bah, il y avait un, moi, je me souviens de la génération, on est de la même, donc je pense que tu as des tas de potes qui cherchaient un boulot, genre 3 ans d'études, et après t'es planqué, tu te fais ton salaire, tu rentres chez toi, tu mets tes chaussons. Là, aujourd'hui, enfin, j'ai pu être tenté par ce discours à un moment en me disant « Ouais, c'est vrai que c'est cool, ta vie. » Et là, tu te rends compte aujourd'hui, et d'une, que la classe moyenne n'existe plus. Elle est redescendue à un niveau. Donc, les mecs qui voulaient mettre des chaussons à l'époque, ils, sont, ils ont des claquettes en bois. Et que je sais plus ce que je voulais dire. Mais qu'en gros...
Non, que j'ai vu que profondément, l'humain est partisan du moindre effort, en fait. Tu vois, par exemple, tu parlais du bouton « J'aime », là. Du pouce, tu vois, c'est plus gratifiant pour une personne de mettre de cliquer que d'écrire j'aime ou bravo, tu vois, c'est plus facile.
C'est donc on y va. Un truc, bah ouais, et puis alors du coup, oh là là, les réseaux, on pourrait en parler des heures. Hein. T'étais beaucoup sur les réseaux, toi.
À un moment, j'y étais. Là, depuis le confinement, j'y suis plus là.
Ça fait du bien, non?
Ben, je me rends compte en fait que c'est que j'étais en quête de reconnaissance, de me dire que j'existais.
C'est-à-dire que tu t'en bats pas tant les yeux que ça?
Non, c'est que je me suis rendu compte que, en vrai, exister, c'est être là pour les gens qui sont à côté de toi, en fait.
Ouais.
Et pas des chiffres. C'est pour ça que, tu sais, des fois, je me dis putain, pourquoi ça se fait qu'une vanne comme ça, ou ce sketch, il va me faire que. 15 000 vues, alors que c'est des barres.
Ouais.
Et en fait, compte, je me dis juste que, ouais, pourquoi je vais aller la poster alors que les trois personnes avec qui j'ai gaulerie à ce moment-là, bah, ça me suffit, en vrai.
Ouais. Et même les 15 000, en fait, te suffiraient.
Ouais, mais non.
Ouais.
Non. Parce que t'attends quand même.
Moi, j'avoue que j'ai mis du temps. J'ai fini par me décrocher de ça, mais tu sais, avec YouTube, je postais une vidéo par semaine. Et franchement, il y a des fois, je te dis, ça fait quand même 5 minutes montées, donc ça fait du 10 minutes quasiment à écrire par semaine. Il y a des moments de fatigue intense et des moments justement d'injustice.
Tu te dis, mais merde,
putain. Et en fait, c'est vers le 100e épisode, je crois, que j'ai abandonné, où je me suis dit, en fait, tu postes et c'est tout. Tu postes et gens qui veulent le recevoir, ils le reçoivent. Mais
mais ce sentiment d'injustice là, où tu te dis, mais putain, frère, regarde ce boule là, il a 200 000 vues.
Ouais.
Ou j'ai juste un chat qui éternue.
Mais en même temps, tu regardes le chat, tu fais, ah, c'est marrant.
Ah ouais,
ouais. Ouais, c'est fou. Hein. Tu te rends compte qu'on est on est peu de choses quand même hein, par rapport à. Mais en même temps, le chat, t'irais pas le voir en spectacle.
Ah, quoi que.
Alors que si les 15 000 qui ont vu ta vidéo, ils viennent te voir, ça te fait une belle tournée, hein.
J'avoue, mais non, mais oui, c'est le vu en fait.
Choyer les, c'est courir derrière le nombre en fait. En fait, il faut pas oublier d'humaniser les vues. C'est-à-dire que si tu fais 4 millions de vues, c'est pas 4 millions de vues, c'est 4 millions de personnes qui ont regardé. C'est une activité.
Qui ont même pas regardé, qui ont vu.
Ouais.
Et c'est peut-être ça qui m'a fait confiance du truc, c'est qu'il s'est vu en fait, et c'est pas entendu.
Ouais.
C'est pas compris. Tu vois, si t'avais 15 000 vues et 12 compris, ça me va.
Oui, je comprends. Il faudrait un bouton compris.
Ben oui.
Et en plus, le plus frustrant.
Parce que
pour
c'est
nous,
pas
c'est
tellement
que...
frustrant quand t'envoies un message et il y a écrit vue.
Ouais.
Tu me réponds pas.
Ça, j'avoue.
Mais oui, mais moi, ok au moins.
Ou ne regarde pas.
Oui, mais voilà.
Mais ouais, je suis d'accord que le vue, il est un peu violent, quoi. Il a été remplacé par le j'aime maintenant, enfin par le double clic, tu sais, sur Insta.
Ouais, je sais pas.
Tu clones une conversation, t'envoies un message au gars, ça va toi en ce moment ? Double clic ? T'as juste un petit cœur sur ta bulle ?
Ah oui, okay. Ah ouais, t'as fait un cœur, oui. Ouais. Ok, ouais.
Mais ouais, c'est intéressant, ça commence à se débarrasser de. Mais je reviens sur le fait que, en fait, tu. Le balayuck, pour moi, qui est symbolique, justement, les réseaux. C'est un petit démon pour le balayoc. Parce que apprendre à gérer ton image, apprendre à accepter ce que t'es, apprendre à le livrer en pâture au public, parce que vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'on fait, quoi. C'est-à-dire on s'ouvre totalement, on se met à poil et on ose tout donner de notre médiocrité. Parce que comme tu me disais tout à l'heure, on a eu un échange sur WhatsApp où on parlait de
ah ouais
de
que
Mario
t'étais le meilleur
Party.
Dans ta médiocrité.
Ouais, c'est très drôle cette phrase. Attends, où est-ce qu'on est? Tu m'as dit est-ce que tu joues à Mario Party? J'ai pas joué beaucoup, mais j'ai pas peur de ma médiocrité. Et tu m'as dit c'est ça la vraie réussite, être médiocre et ne pas avoir peur.
Ouais.
Être le meilleur dans son médiocre.
Ouais.
Et je trouve que ça c'est une résonance. Je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus, mais pour les réseaux, être le meilleur dans son médiocre, c'est-à-dire accepter ce que tu es, faire le mieux possible dans ta capacité à créer la chose, mais ne pas oublier que la réception t'appartient pas. C'est-à-dire que
ben, c'est exactement le sens du mot je t'aime en fait, parce que ce qui est douloureux quand tu dis je t'aime, c'est de pas avoir de retour.
Ouais.
Et dire accepter que t'es médiocre et que tu te livres et ne pas avoir de retour à ce je t'aime là, de dire ben Marliche en fait.
Ouais, se désintoxiquer.
Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir donné.
Du moi aussi je t'aime. Et ce qui compte, c'est d'avoir donné. Ouais, c'est beau.
C'est pour ça que je pense que un de mes sacerdoces, quand j'y pense, c'est de me dire que aimer, en fait, c'est pardonner et se pardonner. Et dans le mot pardonner, t'as tout, en fait. C'est à donner et tu pars. Mmh. C'est pas grave. C'est balayoc, en fait.
C'est le vrai balayoc, quoi. C'est le je t'aime et envoie-moi ce que tu veux suite à ça.
Mais
voilà. Moi, j'ai...
Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on s'arrête là ?
Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Hein.
Ouais, bah écoute, c'est moi le chef.
Bah oui.
C'est la première fois de ma vie que je suis chef, je sais pas prendre de décision, comment
ça
se passe.
Je sais. Et après, tu me dis, avec ma femme, il n'y a pas de dominé et dominant.
C'est la première fois de ma vie que je décide quelque chose.
Mais oui, à chaque fois que je mets un bulletin de vote, eh ben, c'est ma femme qui me donne tout le temps.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.